Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuel Davydenkov du Monde, heureux de vous accompagner avec Philippe Escande et Isabelle Edbel, également journaliste au Monde, au cours de cette matinée de débat conçue, vous le savez, par le Cercle des économistes en partenariat avec Le Monde, sur le thème « Comment réconcilier la France avec ses territoires ?». On a un programme extrêmement dense, je pense que vous l'avez vu, sinon vous ne seriez pas là, programme en 5 temps. L'État a-t-il abandonné les territoires? Les territoires sont-ils des moteurs d'innovation? Comment relancer la production dans les territoires? On terminera avec la démocratie participative, réponse à la crise des territoires, point d'interrogation. Et dans quelques instants, je donnerai la parole à Jean-Hervé Lorenzi et à Cynthia Fleury pour introduire notre journée sur le thème de l'explosion des inégalités territoriales. Programme extrêmement dense. On va évidemment vous représenter nos différents intervenants au fil de la matinée. Il va falloir que chacun fasse preuve d'une certaine frugalité de parole. Je vais tenter de donner l'exemple en introduction et en commençant par excuser l'absence de notre directeur Jérôme Fenoglio qui a été retenu au journal ce matin par les nécessités du bouclage. Il m'a demandé de le représenter. Vous allez perdre un petit peu en éloquence ce que Cynthia Fleury et Jean-Hervé Lorenzi vont gagner en temps de parole, mais sans excès si vous le voulez bien, puisque je vais leur passer le relais dans quelques instants. Le temps quand même de vous dire ce que Jérôme Fenoglio voulait partager avec vous, ça tient en 2 convictions. La première, c'est que le thème de cette matinée est absolument fondamental et structurant pour le débat public. Je ne vais pas détailler ici tous les rendez-vous d'actualité entre l'actualité et les territoires. Ils ont été extrêmement nombreux ces derniers mois et ils se sont cristallisés, vous le savez, autour du mouvement des Gilets jaunes, mouvement qui est venu heurter de plein fouet la dynamique de la Startup Nation qui se promettait précisément de soutenir, d'améliorer la croissance à partir de ces mêmes territoire, un mouvement, je cite ici Patrick Roger dans Le Monde, qui a mis en exergue le sentiment d'injustice territoriale autour de nombreux aspects, accès aux services publics, mobilité, couverture numérique, déserts médicaux, centre-ville en déshérence, abandon des campagnes. Patrick qui poursuivait en écrivant que la perception largement répandue était celle d'une France urbaine riche et choyée par les pouvoirs publics contre une France périphérique en déclin et délaissée. Fin de citation. Est-ce que cette perception est juste? On va en débattre avec celles et ceux qui pensent et qui agissent au quotidien sur le territoire, des responsables politiques, des acteurs du débat démocratique, des activistes, des chefs d'entreprise. Vous avez vu leur nom dans le programme, on va donc vous les présenter. En tout cas, tous ont accepté ces temps de parole extrêmement contraints. Je pense qu'on peut applaudir parmi les intervenants, d'ailleurs ceux qui sont déjà présents, pour les encourager à cette frugalité de parole, pour leur montrer qu'on est sérieux. Non, on peut déjà les remercier. Voilà, ça me semble être un bon début. La deuxième conviction que Jérôme Fenoglio m'a demandé de partager avec vous, elle est portée de longue date par Le Monde, elle est que le débat démocratique s'enrichit des apports de la science. Alors aujourd'hui, c'est la science économique qui sera mise à contribution et je remercie les équipes du Cercle d'économistes d'avoir conçu et porté cette matinée, mais aussi et surtout d'ouvrir les portes aux autres sciences, tant il est vrai qu'aujourd'hui, aucune discipline ne peut prétendre à elle seule embrasser la complexité des enjeux auxquels font face nos sociétés. On fera donc appel plus tard à la démographie, dans quelques instants à la philosophie, dont on pourrait débattre de savoir si c'est une science ou pas, aux sciences politiques, etc., etc. Donc merci beaucoup à toutes et à tous et je vais vous demander d'accueillir pour introduire notre journée le président du Cercle des économistes, monsieur Jean-Hervé Lorenzi, à qui je cède la place.
Oui, oui, combien t'es dit? 20 minutes?
8.
20 minutes. Non, pas 8 minutes, j'ai pas besoin de 8 minutes. Bien d'abord, un très grand merci au Monde. C'est très gentil d'avoir présenté le travail comme étant celui essentiellement du Cercle des économistes. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait juste. Et le fait est que nous avons beaucoup discuté avec vous sur ce thème. Je trouve que cette réunion est très importante pour 2 raisons. La première, c'est que on peut attaquer directement les solutions qu'on peut avoir par rapport à ces conflits auxquels nous avons assisté, tout simplement parce que les faits sont très simples et ont été très bien analysés. Il y a eu 2 documents top. Il y a le livre d'Hervé Lebras qui, en réalité, permet d'avoir une vision très claire des sujets. Et puis, il y a une note du CAE qui a été rédigée, alors j'ai oublié le titre, mais elle porte sur les territoires, qui a été rédigée par Philippe Askenazy et Philippe Martin, qui va venir tout à l'heure. Et En réalité, il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il y a eu une explosion des inégalités territoriales. Donc, ce n'est pas la peine de faire ce qu'on fait d'habitude dans tous nos séminaires, c'est-à-dire d'abord de traiter, est-ce vrai, le diagnostic, etc. On gagne énormément de temps sur ce sujet et c'est bien. Deuxième aspect, le problème de mon point de vue, là, ce n'est pas du tout le sexe économiste, mais de mon point de vue, le problème de ces explosions d'inégalités a été traité de manière compassionnelle. C'est-à-dire qu'on a tous souffert avec les gilets jaunes, et à juste titre. Ça veut dire qu'on est des bonnes filles et de bons garçons, qu'on est généreux, etc. Mais dans la réalité, si l'on essaye de se situer dans une perspective de faire évoluer les choses, il faut comprendre le problème de manière, de mon avis, beaucoup plus profonde, beaucoup plus idéologique, de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est ce que je vais me permettre en deux minutes de dire, ce que je crois, qui est peut-être tout à fait discutable, mais qui plonge cette affaire dans des racines très lointaines, d'ailleurs pas si lointaines, 40 ans. En fait, nous avons bâti depuis 40 ans un discours idéologique qui est fondé sur deux éléments. Le premier élément, c'est un élément schumpeterien mal compris. Schumpeter avait pas celui de la destruction créatrice qui est utilisé par tous les politiques quand il essaie de faire un baratin sur un sujet, mais plus exactement Schumpeter dans Capitalisme, socialisme et démocratie explique que la tendance naturelle de l'économie mondiale, pour des raisons d'innovation, de recherche, développement, tout ce qu'on peut imaginer, c'est une concentration. Et il va même aller plus loin et sortir une ânerie, comme d'ailleurs beaucoup d'économistes en sont friands, c'est-à-dire qu'il va expliquer à l'époque que c'est le bloc soviétique qui va gagner la confrontation entre les soviétiques et les américains, tout simplement parce que les grandes entreprises américaines vont avoir tendance à bâtir des barrières à l'entrée et donc elles vont progressivement faire moins de recherche et développement, alors que le glorieux peuple soviétique, lui, va continuer à mutualiser l'ensemble de ses travaux de recherche et son financement, et que ça va permettre en réalité de faire progresser l'Union soviétique de manière beaucoup plus rapide. Et donc, cette idée qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est le fait que nous avons vécu à partir, alors moi j'ai une date symbolique, à partir de 1983, pourquoi 83? Parce que c'est le changement de politique de Mitterrand, l'idée que le mot compétitivité, qui d'ailleurs pour nous économistes n'a pas un grand sens, ce que nous aimons c'est les mots de productivité, mais le mot de compétitivité devient le mot clair, essentiel, et il porte en germe l'idée qu'en suivant la vision schumpeterienne, évidemment ceux qui développent cette position ne connaissent pas Schumpeter, mais c'est pas grave, ça c'est enfin ils connaissent l'expression destruction créatrice, ça, ils connaissent le vulgus, mais la réalité c'est que on va progressivement construire un monde qui est un monde très, j'allais dire, soucieux de concentration. Ça va d'ailleurs donner des résultats tout à fait étonnants et curieusement, les fameuses nationalisations de 81 vont se transformer dans une structure industrielle très étonnante. Il faut quand même que vous vous souveniez que jusqu'il y a 2 ou 3 ans, dans les 500 grandes entreprises mondiales, la France était le deuxième pays à avoir, en termes de nombre d'entreprises, dans ce cadre des 500, puisqu'il y en avait une, je regarde Philippe, mais il le sait mieux que moi, mais il devait y en avoir une quarantaine, plus que l'Allemagne, plus que ceci. C'est une vision idéologique très très forte qui a été, portée dans cet aspect-là. Et il y a eu une étape complémentaire par rapport à ça, qui a été, alors, au fond, la modernisation de cette idée, qui consistait, alors là, à s'inspirer de la Californie. Le modèle, c'était la Californie. Alors, on est plutôt dans les années 2000. Toujours dans une version assez concentrée, avec cette idée que il faut désormais mettre en avant l'innovation comme étant le sujet clé. Ce sera d'ailleurs une des tables rondes qui sera développée. Et au fond, on va casser les murs qui séparent la recherche, l'éducation et l'entreprise. Ce sont les clusters, ce sont les pôles de compétitivité, qui est une très bonne idée. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez que lorsque le Premier ministre de l'époque, M. Raffarin, avait développé cette idée de pôle de compétitivité, qui est une idée très très forte, il avait été victime d'une cabale intellectuelle, tout à fait légitime d'ailleurs, puisque il lui avait sorti, je crois, à l'époque 62 ou 63, ça augmentait après, pour le compétitivité. Et dans les faits, on lui reprochait ça en disant il faut absolument concentrer la logique de cette nouvelle politique industrielle sur un nombre très limité. Donc cette idée de concentration, dont vous voyez bien qu'elle a un lien avec l'abandon des territoires. Aujourd'hui d'ailleurs, plus exactement hier et aujourd'hui, la loi de programmation est l'objet d'une discussion qui est exactement au cœur de notre discussion, programmation de la recherche, puisque certains, et c'est me semble-t-il le cas du gouvernement, défendent toujours l'idée, qui est tout à fait défendable, qu'il faut concentrer les efforts sur un nombre d'établissements limités, une dizaine, une quinzaine, et que ça nous permettra de grimper dans le classement de Shanghai. Et d'autres disent qu'il faut répartir sur l'ensemble du territoire et il faut avoir une vision qui est plus étalée, plus dispersée. C'est une discussion qui est une discussion légitime, compliquée. Il y a eu des milliers de travaux sur Schumpeter, de vérification, et comme toujours, la moitié disait une chose, l'autre moitié disait l'autre. Donc, vous voyez à quel point il y avait une logique forte. Et puis, le deuxième aspect idéologique fort, ça a été cette idée qui, au fond, s'est traduite par la rentrée de la Chine à l'OMC, qui restera quand même dans une date historique de l'intelligence humaine, et qui a consisté à dire, avec une naïveté sans nom, à nous, la recherche, le développement, le marketing, tout ce qui est intelligent, et on a des usines dans le monde qui font le travail de base, sachant que jamais ne nous rattraperons. Vous voyez à quel point les prévisionnistes peuvent avoir, de temps en temps, quelques erreurs de jugement. Et c'est sur cette base, ces deux aspects, ces deux éléments idéologiques que nous allons vivre, avec des conséquences qui seront très fortes. La première conséquence, j'ai oublié d'ailleurs quelle date exacte a marqué ce moment, il y a l'abandon d'une politique d'aménagement du territoire. Il n'y a plus de représentants. Je ne sais plus quand la DATAR a disparu. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il n'y a pas un truc qui ressemble à DATAR avec d'autres sigles. Mais dans les faits, pour les gens de ma génération, la DATAR, c'est très important. C'était très, très vigoureux. Et ça a disparu en même temps que ce qu'on appelait le commissariat au plan. Tout ça donnait le sentiment à l'époque qu'on était dans un monde qui avait tellement changé qu'il fallait le modifier sans voir que la data, le commissariat au plan, il y a une France Stratégie qui est très brillante aujourd'hui, mais qui a un autre métier, ce sont des lieux de dialogue. Et vous voyez bien que la première des conséquences, c'est que partout, un peu partout, les lieux de dialogue qui étaient très organisés ont disparu. La data, c'était connu, hein, c'était très vigoureusement animé par des femmes et des hommes qui souhaitaient essayer de comprendre ce qui se passait à droite, à gauche, etc. Et qui, vraisemblablement, si ça s'était poursuivi, aurait mis un frein à cette politique de désertification française qui nous réunit aujourd'hui. Les deuxièmes conséquences, ça a été évidemment la désindustrialisation forte, puisque nous sommes le pays au monde, enfin en tout cas dans les pays de l'OCDE, dont la désindustrialisation a été la plus rapide, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de faire comme les autres, à l'exception de l'Allemagne, mais comme les autres, une diminution progressive de nos activités productives, mais on a, nous, tout supprimé, et c'est tous ces ateliers, c'est tout ce qui faisait le maillage d'un pays comme le nôtre en matière de production a disparu progressivement, et donc est une des, j'allais dire, un des éléments de ce qu'il faut que nous ayons en tête lorsque nous réfléchissons à la solution, aux solutions pour sortir de la situation. De la même manière, on a eu par rapport à l'agriculture, qui tout le monde a des torts et des qualités, et peut-être critiqué, mais il se trouve que les résultats sont là. Si on prend par exemple l'industrie agroalimentaire française, elle est passée en Europe du premier au troisième rang. Tout ça, ça s'est dilapidé avec cette vision un peu surréaliste qui consistait à dire que désormais les agriculteurs étaient des aménageurs d'espace. C'est sûr que pour pousser les gens à produire, alors il fallait changer sûrement le mode de fonctionnement de la politique agricole commune, mais la réalité, c'est que idéologiquement, on est parti sur cette idée que la production était au fond un acte qui était plutôt à délocaliser que à nous. C'était plutôt une logique de mise en perspective intellectuelle de tout ce qu'on pouvait faire. Voilà donc le diagnostic qu'on va retrouver d'ailleurs dans les tous les thèmes qui vont être évoqués, puisqu'on va retrouver à la fois, est-ce que l'État s'est retiré ? Bien sûr que oui. Est-ce que les territoires, c'est des lieux d'innovation ? Ben, il faut y repenser, mais c'est sûrement une voie de solution. Est-ce qu'il faut avoir envie de produire ? Alors, le mot « produire » est quand même très fort. Bien sûr que oui. Et est-ce qu'on peut trouver un élément ? Je termine. Oui, oui. Non, il fallait, tu m'avais dit jusqu'à midi, donc c'est bon. Est-ce qu'on peut trouver des lieux d'expression qu'on avait ailleurs dans les dialogues qui étaient au fond à la française? Est-ce que c'est la démocratie participative? C'est oui. Donc, tout ça pour dire que tu es formidable. C'était l'objet. Et de dire que, et de dire à mes camarades qui vont intervenir, qu'il faut, au-delà d'un diagnostic qui a été remarquablement fait, Philippe, j'ai dit à quel point la note que vous aviez écrite avec Philippe Ascasi était un descriptif parfait, pas la peine d'y passer. On a le diagnostic. En revanche, il faut se replonger dans le caractère idéologique, les sous-bassements idéologiques de ce qu'a fondé, ce qui est quand même pas un succès majeur pour notre pays, et dans les réponses qui nous sont proposées aujourd'hui, c'est là-dessus que je terminerai, il y en a deux. Il y en a une qui est quand même très nostalgique, c'est pas du tout la mienne, hein, mais qui est quand même nostalgique. Trouver partout cette envie de produire, mais il faut trouver les termes, et dans quel domaine. Et puis la version du président de la République, qui est une version de la Startup Nation, qui est là aussi très sympathique, mais qui ne résout pas tous les problèmes, parce que on va pas devenir un pays qui ne sera composé que de start-upers. Enfin, en tout cas, ma génération se déclare totalement, sur ce thème-là, totalement incompétente. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Il y a une agence nationale de la cohésion des territoires. Je regardais, c'est 1er janvier 2020, qui succède lointainement à Alex Dattard. Citation courte. Les inégalités territoriales, ce n'est pas seulement le maintien fort du chômage et notamment celui de la jeunesse, l'accès compliqué aux services publics, la faible attractivité des territoires. Les inégalités territoriales, c'est une intériorisation forte du sentiment d'échec et d'absence d'avenir. La citation se poursuit, mais comme on a l'auteur de la citation dans la salle, je vais évidemment lui céder la parole. Et je vous demande d'accueillir Cynthia Fleury, à qui je donne la parole. Donc il reste 1 minute 30, Cynthia. Non, pour une dizaine de minutes également d'introduction de nos journées.
En 1 minute, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Oui, moi, je vais bien évidemment ne pas aller sur le territoire économique, mais plutôt sur le territoire, pas simplement du ressenti, mais de la projection des individus à partir du milieu qui est le leur. Donc effectivement, il y a un fait aujourd'hui, il y a un consensus, il y a des inégalités qui sont posées de façon très objective et puis incarnées dans les vécus. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des chiffres macro, c'est concrètement un accès effectivement aux services publics problématiques, à des sentiments, des circuits de relégation au niveau des choix d'études, à des mobilités qui sont plutôt contraintes et non pas choisies. Enfin, donc c'est aussi intéressant de voir la traduction en termes de vécu de ces inégalités macroéconomiques dans la vie des gens. Et puis il y a un élément de traduction qui lui est plus psychique presque, qui est que toutes ces formes d'insécurité, qu'elles soient des insécurités économiques, sociales, culturelles, vous entendez aussi beaucoup cette question de l'insécurité culturelle, insécurité politique, crise de défiance, bon, tout ça à un moment donné pourtant a déjà existé, peut exister. Et puis à un moment donné il y a quelque chose qui vacille dans l'être et qui vient créer véritablement le point matriciel qui est une insécurisation psychique, c'est-à-dire que tout ce qui à un moment donné pouvait être ressenti comme obstacle, difficulté, mais on a eu ça, l'histoire même a montré à quel point des situations d'après-guerre étaient des situations bien plus coriaces d'une certaine manière que celles d'aujourd'hui. Et on voit bien que l'intériorisation n'était pas au même endroit. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est cette différence de la psyché humaine à un moment donné, quand elle n'arrive plus à se projeter, alors que des faits objectifs pourraient au contraire montrer que si, on peut trouver des chemins. Et à partir du moment où vous avez, et c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité en psychanalyse, en clinique, la vulnérabilité, c'est pas simplement d'être dans une situation vulnérable, c'est de considérer qu'on n'est plus une ressource pour soi-même, et de considérer que ce qui est autour, en termes matériels, ne peut plus être transformé en ressources existentielles. Donc l'approche capacitaire, qui a d'ailleurs été portée par des grands économistes, hein, je pense à Amartya Sen et d'autres, ou Mohamed Ul-Haq, etc., vous avez, si vous voulez, ce fait de dire, voilà, nous avons des ressources matérielles, c'est un fait, la France est un lieu de grandes ressources matérielles, même avec ses difficultés. En revanche, on perd le sentiment capacitaire quand ces ressources matérielles ne donnent plus le sentiment qu'elles vont être des ressources existentielles, au sens où ces ressources matérielles, on va pouvoir les transformer et elles vont pouvoir transformer notre vie. Et donc, on a aujourd'hui un sentiment, pas simplement de relégation territoriale, etc., on a un sentiment déficitaire de soi-même, une mésestime, une relégation symbolique, et qui fait que vous entendez ces termes sans cesse revenir, et ce n'est pas une psychologisation de la société, c'est une intériorisation du phénomène d'échec, humiliation, déconsidération, parlement des invisibles avec Rosan Vallon et d'autres, et qui en fait a été très très bien posé par les sciences humaines et sociales depuis Adorno jusqu'à Axel Honneth sur la question du sentiment d'intériorisation, d'invisibilité sociale. Donc ça, c'était le premier point. Le premier point qui est qu'on a passé un stade où on n'est pas simplement dans un rapport d'objectivation des inégalités, mais dans un rapport de subjectivation forte des inégalités, et donc de séparatisme, de scission, de sentiment que la communauté de destin n'a plus sa place. Et ça, c'est validé par, effectivement, Hervé Lebras, Fourquet, Guilly, Foucault dernièrement, pas Michel, mais Martial, avec Algan, Cohen, sur les questions du populisme, etc. Ou Goudart, si on veut, ou Harari, etc. Le sentiment de ceux qui vont se dévaloriser pour se présenter, hein, et être s'assigner eux-mêmes en identité victimaire. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça a été porté également par des grands économistes ou des historiens de la politique ou encore une fois des cliniciens. Je pense à un texte bien connu dans les années 40 qui s'appelle « La grande transformation », Pollyanny. Je pense à, juste avant, un autre texte que vous voyez dans « C'est la fin du 19e » avec Gustave Le Bon sur « La psychologie des foules » ou Wilhelm Reich sur « La psychologie du fascisme » ou Hermann Brock plus tard. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais il raconte qu'à un moment donné, vous avez un double mouvement. Bref, pas. Et ce double mouvement, c'est tout simplement la naissance à partir de cette intériorisation de l'échec, la naissance du fond ressentimiste. Et donc cette naissance du fond ressentimiste, elle renvoie aussi à des vérités de la psyché. Hein, donc elle n'est pas que liée précisément à une question du précariat social, mais voilà, on voit très clairement que cette perte de résilience, le sujet va produire à un moment donné, après l'assignation identitaire et l'assignation victimaire, vous avez en gros deux chemins qui se séparent. Soit vous avez un dépérissement, une intériorisation et donc ce qu'on appelle un passage à l'acte contre soi-même, découragement profond, dépression, suicide, ce que vous voulez, abandon, désinvestissement, les techniques sont différentes. Soit vous avez un passage à l'autre contre autrui. Et le passage à l'autre contre autrui, véritablement, c'est aussi une traduction politique du ressentiment. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que, de fait, on va avoir un grand relent de ce double mouvement, c'est-à-dire premier mouvement mondialisation, explosion des inégalités, deuxième mouvement repli, défense, armature forte, désignation du bouc émissaire, eux, nous, etc., réduction de la complexité, Donc, on le voit déjà dans les modélisations dites d'effondrement. On va avoir la même chose dans la psyché, c'est-à-dire l'effondrement psychique, c'est une binarisation. C'est de la radicalité, c'est eux contre nous. C'est tout ce que vous voyez aussi en essence aujourd'hui en termes idéologiques. On va faire l'expérience de beaucoup ça, c'est-à-dire le grand retour de la querelle autour de l'universel avec l'intersectionnalité qui attaque. On attrape tout, on était parti d'un endroit et on arrive sur la question des dominés, les luttes des classes, etc., etc. Donc tout ça, ça renvoie précisément à ce continuum d'une individuation qui est touchée. Ça produit ce que Christopher Lasch a appelé un moi minimal. Et un moi minimal, ça produit de la réaction. Et la traduction politique de cette réaction, c'est ce que nous allons vivre là, a priori, dans les décennies qui arrivent. Sachant qu'à partir du moment, c'est normal, à partir du moment où vous avez touché l'enveloppe psychique d'un être, c'est pas tout à fait comme une machine, ça met un petit peu plus de temps à retrouver la confiance qui est absolument nécessaire pour le maintien de l'état de droit. Donc c'est ce que j'avais, moi, travaillé dans un texte qui s'appelait « Les irremplaçables », en essayant de montrer que, voilà, pendant longtemps, le libéralisme, là tout à l'heure avec Jean-Hervé Lorenzi, on a vu les questions des soubassements idéologiques derrière la question de la croissance. Vous avez aussi des soubassements idéologiques du libéralisme politique qui considère, et encore une fois on peut comprendre, que l'individu est in abstracto, que la démocratie ne peut être que procédurale. Que, voilà, essentiellement, c'est un grand acte lié au régime. Il s'avère que la démocratie, c'est d'abord du compromis social. C'est d'abord de l'État social, même s'il est arrivé historiquement après. Et que donc, le grand moment déclaratif de la démocratie dans l'histoire, c'est précisément celui qui dit que, voilà, il y a démocratie, mais ensuite, la vérité de la démocratie, c'est celle, encore une fois, de l'État social. Et aujourd'hui, c'est ça qui est une faillite forte. Résultat, ce désaveu va se porter sur la démocratie. C'est ça que je voulais de fait pointer du doigt, c'est que du désaveu reçu, la réciprocité qui est envoyée, c'est le désaveu qui va se porter sur la démocratie et le grand retour du moi fantasmatique, fascisant, qui va espérer tel ou tel leader histrionique pour venir le sauver. Et puis, dernier point, mais le dernier point était plutôt le côté solution, mais en même temps, bon, je dis, ça va quand même être un peu compliqué. Donc, mais c'est vrai que on le voit. On a encore aujourd'hui le problème des municipales et ces élections. Ça incarne un moment aujourd'hui tout de même de démocratie de proximité. Et on voit que oui, dans les territoires, il y a une solution et pas simplement que la validation d'un enclavement. Et cet enjeu, c'est véritablement une décentralisation, je vais le dire autrement. Mais voilà, nous avons défendu une vision extractive, prédatrice, d'une certaine manière hyper compétitive, concentrationniste de la croissance. Et nous devons aller vers aussi une vision homéostasique, non anthropique de la croissance. Et ça, c'est pas simplement toute une refonte de nos modèles, mais c'est bien évidemment aussi une refonte de l'idéologie qui est derrière nous. C'est-à-dire de penser à chaque fois qu'on produit une attractivité à un endroit, de penser quelles sont les externalités négatives de cette attractivité de cet endroit sur le périphérique. Et ça, c'est une façon un peu différente de penser parce qu'elle est beaucoup plus dynamique et contre-intuitive. Voilà, je vous remercie.